Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Vous avez fait la plus grande erreur de votre vie en vous réfugiant dans le manoir de l'enfer. La terrible tempête qui fait rage au dehors ne représente qu'un bien faible danger comparé aux terrifiantes aventures qui vous attendent à l'intérieur de cette demeure maléfique. Qui peut dire combien de voyageurs malchanceux, cherchant comme vous un abri, ont péri dans les murs du manoir du comte de Brume ? Sachez que la nuit qui commence s'inscrira pour toujours parmi les plus effroyables souvenirs de votre existence, si toutefois vous vivez assez longtemps pour en garder mémoire. Les livres dont vous êtes le héros. Vous vous souvenez, chers auditeurs, chères auditrices, ces romans-jeux interactifs nés dans les années 60 qui ont connu leur heure de gloire à partir de 1982 et la publication du Sorcier de la Montagne de Feu. Principe élémentaire, à la fin de chaque chapitre, plusieurs scénarios s'offrent au lecteur, à lui ou à elle, de faire le bon choix pour terminer l'histoire en un seul morceau. Revenu sous le feu des projecteurs, le temps d'un épisode récent de la série Black Mirror, ces ouvrages fantastiques, ces ouvrages horrifiques, héroïques ou fantaisistes, méritaient bien une adaptation radio. Ce soir, je vous propose de vivre une partie interactive de livres dont vous êtes le héros en direct, au fil des intrigues épouvantables du Manoir de l'Enfer, écrit par l'Américain Steve Jackson en 1984. Nous sommes actuellement visibles. Je vous le dis, c'est important, nous sommes en chair et en os, en live sur la page Facebook de Radio Nova. Nous pouvons suivre seconde par seconde vos réactions. Vous allez pouvoir nous aider à nous diriger dans les couloirs de ce manoir infernal, nous suggérer tel tableau à inspecter, tel ennemi à contourner. Et par moments, nous vous solliciterons également par téléphone avec le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, 07 62 49 00 53. Je le répéterai très souvent. Sachez, public chéri, que vous pourrez compter ce soir sur la bravoure d'un fan avoué du genre qui est avec nous en studio, l'humoriste Haroun. Bonsoir Haroun.
Bonsoir. J'allais mettre l'ambiance.
Oui, c'est bien. Haroun, vous étiez mon invité il y a environ 3 semaines pour parler de votre rapport à l'écriture et à la littérature. L'émission peut se réécouter en podcast sur Nova.fr. Et hors antenne, en feuilletant un livre dont vous êtes le héros, tout récemment édité par Nova Édition, Burnout, signé Paul Bianchi et Thomas Gaillet, qui se déroule dans l'univers sanguinaire de la vie en entreprise, vous m'avez dit que vous avez joué, sans doute adolescent, au livre dont vous êtes le héros. Quel souvenir vous gardez de ces lectures interactives ?
Un très bon souvenir où on se dit qu'on ne veut pas être dérangé pendant 2 heures ou 3 heures. Et en fait, il y a tout plein de souvenirs. C'est celui de la triche qu'on peut faire tout seul, mais on a un peu honte, mais on triche quand même. Parce qu'on a, parfois on s'agace. Et puis, forcément, on est content quand on arrive à la fin de la quête. Et en fait, ça, je trouve que c'est dommage en fait que ça se fasse plus.
Ça se fait toujours en fait, les éditions, notamment les éditions Gallimard, continuent à publier les grands classiques comme le Manoir de l'Enfer, mais il y en a aussi des nouveaux qui qui sont écrits.
Parce que je trouve qu'il y a vraiment des super trucs à faire avec d'autres atmosphères, parce que nous c'était souvent des atmosphères un peu
heroic fantasy
ou horreur et tout, mais je trouve ça super que ça se fasse avec l'entreprise, et du coup j'ai envie d'y rejouer, de retrouver un peu ce truc où tu te poses tout seul sur ton lit et c'est parti, et puis tu joues. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est de le faire à plusieurs. Moi, je me souviens aussi qu'on faisait des trucs à plusieurs qui s'apparentaient au jeu de rôle. Mm-hmm. Et là, c'était vraiment, c'est pour ça que j'ai pris des chips et tout, parce que c'est vraiment la régression totale, quoi. On passe une journée à lancer des dés j'arrive même pas à savoir comment on fait pour entrer là-dedans, mais quand on y est, on se dit comment on va faire pour ne plus le faire samedi prochain, quoi. Donc c'est assez addictif et en même temps, quand on n'est pas dedans du tout, on se dit mais c'est quoi ce truc, et on, voilà, c'est... Enfin, en tout cas, j'ai plein de souvenirs comme ça qui se mélangent.
Est-ce que vous connaissiez ce livre-là, celui que, non, auquel nous avons joué
ce soir?
Non, je ne
m'en souviens pas. Parce que,
Le Manoir de l'Enfer.
Non, non, je ne connais pas. Non. Bon. Mais j'ai l'impression que ces graphismes me rappellent vraiment...
Quelque chose.
Oui, en fait, c'était trop, trop... On était trop contents quand on achetait ce genre de trucs.
Avant de démarrer pour de bon cette partie, cher Haroun, je dois vous demander une petite formalité. Je dois vous demander de lancer le dé, j'ai un dé devant moi, à 5 reprises pour déterminer votre habileté, votre endurance, votre chance et votre peur. Et un cinquième truc, on en parlera plus tard. Alors c'est important car à la différence de nombreux livres de ce genre, dans Le Manoir de l'Enfer, vous partez sans armes, sans provisions et sans potions magiques. Vous êtes complètement à poil. Et pas de bol, vu que bah, c'est le manoir de l'enfer, vous avez la possibilité de mourir de peur au cours de cette aventure.
Ah ouais.
Votre résistance à la frayeur va dépendre de l'un de vos lancers de dés. Alors voici un dé que j'ai sculpté moi-même dans l'écorce d'un arbre mourant de la porte de Clignancourt. Nous allons déterminer votre habileté. Je fais un peu de place. Alors 4 en habileté, il faut ajouter 6, nous dit le mode d'emploi. Je vais vous tendre, si je la retrouve, votre fiche personnage. Quelqu'un est en train... Voilà, parce que c'est important. Okay. Elle est intitulée Haroun dans Le Manoir de l'Enfer.
Donc 10, ok.
10.
Oh là là, je me souviens beaucoup de cette
La chance, maintenant.
La chance.
Oui.
Ça, c'est bon, ça.
Vous avez 6 en chance, donc il faut ajouter... Oui, la chance, il faut également ajouter 6. Et maintenant, nous allons calculer votre endurance...
3.
Ah, il faut ajouter 12.
J'ai jamais aimé le marathon.
Ensuite, votre peur. Alors là, c'est l'inverse. C'est la peur maximum que vous êtes capable d'endurer.
D'accord.
1. Et il faut ajouter 6. Donc vous avez 7 en peur maximum. C'est-à-dire que vous êtes très effrayable comme,
ouais,
comme garçon.
Mais c'est le cas. Dans la vie.
De plus, dernière chose, un auditeur, David, que je salue, nous a précisé que Le Manoir de l'Enfer est l'un des livres les plus difficiles de cette série, des livres dont vous êtes le héros. Il suffit de faire une seule erreur et on doit recommencer dès le début. J'ai moi-même fait une partie en solo ce dimanche et je suis mort comme une merde au bout de 30 minutes, prisonnier des geôles souterraines du manoir. J'ai donc pris la décision, cher Haroun, pour qu'on ne recommence pas non plus toutes les 10 minutes, de vous accorder des vies supplémentaires qui vous permettront de ne pas reprendre tout au début en cas de décès.
Donc je les lance.
Lancez donc le dé pour savoir combien de vies supplémentaires vous seront accordées.
Là, c'est le plus important, je crois.
3.
3. Aïe, aïe, aïe.
C'est ni bien ni pas bien.
Ouais.
N'attendons plus, c'est l'appel du 18 juin. La Nova Book Box dont vous êtes le héros, c'est parti.
Nova Book Box, l'insoutenable légèreté de l'univers.
Est-ce que quelqu'un veut des chips?
Vous avez complètement ruiné mon intro.
Pardon. C'est ça les livres dont vous êtes les héros.
Excusez-moi, on va y avoir. Attendez, j'ai quand même. La pluie redouble de violence. Vous êtes obligé de ralentir. Vos phares luttent pour éclairer la route. Vous envoyez à tous les diables le vieil homme aux cheveux blancs qui vous a expédié dans ce chemin défoncé. Il avait probablement voulu dire de tourner à gauche au deuxième croisement, à moins que ce ne soit à droite, le vieil idiot. Peut-être tout simplement s'est-il moqué de vous. Et d'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué une lueur malveillante, sinistre même, dans son regard? Allons donc, vous avez tout simplement tourné au mauvais moment et cet effroyable orage vous a surpris dans la nuit. La pluie va certainement cesser bientôt. Attention! Vous donnez un violent coup de volant à gauche pour éviter une silhouette qui, venue de nulle part, a surgi dans le faisceau de vos phares. La voiture bondit et rebondit sur les pierres et dans les ornières du chemin avant de terminer sa course dans un fossé. Vous reprenez vos esprits. Vous n'êtes pas blessé, mais vous êtes totalement hébété. Alors vous vous rappelez. Le corps! Vous avez percuté la silhouette qui est apparue devant vous. Il n'était pas possible de l'éviter. Vous jaillissez hors de la voiture, priant le ciel pour qu'il soit encore en vie. Mais il n'y a pas trace d'un seul corps. Vous réfléchissez, après tout, êtes-vous bien certain d'avoir aperçu quelqu'un? N'était-ce pas tout simplement un jeu de lumière? Mais non, vous vous rappelez les bras tendus juste devant votre voiture et le visage déformé par la terreur. Le visage, il avait quelque chose... de familier. Vous le connaissez, c'était celui d'un vieil homme aux cheveux blancs. Non, ce n'est pas possible. Vous regagnez votre voiture. Le moteur, tout saute. s'étouffe, puis cale. Vous tournez la clé à nouveau, le moteur ne répond plus. La batterie est morte. Où trouver de l'aide ? Comme pour répondre à une inquiétude naissante, une lumière apparaît au loin. Quelqu'un a allumé une lampe de chevet. Quelle chance ! Voilà plus de 20 km que vous n'avez vu aucune habitation et vous êtes tombé en panne à proximité de la demeure de quelqu'un. Vous boutonnez votre manteau et vous sortez de la voiture. Le bâtiment, une espèce de manoir, vous apparaît à environ 5 minutes de marche. Le temps d'y parvenir, vous serez trempé jusqu'aux os. Mais comment faire autrement pour appeler un garage ? Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être à votre rendez-vous demain matin. De toute façon, il sera certainement possible de se sécher après avoir téléphoné. Vous claquez la porte de votre voiture, vous remontez le col de votre manteau, vous vous dirigez vers la maison. Le manoir est vieux, très vieux. Vous n'avez pas remarqué un détail qui aurait pu encore vous faire rebrousser chemin à Aoun. Aucune ligne téléphonique n'arrive jusqu'à la maison. Alors vous gravissez les marches du perron. Vous êtes loin, très loin d'imaginer le sort qui vous est réservé. Car la nuit qui commence s'inscrira pour toujours parmi les plus horribles souvenirs de votre existence. Vous grimpez les marches 4 à 4 et arrivez devant la porte du manoir. Étrange silence, aucune lumière ne brille au rez-de-chaussée. Vous faites quelques pas en arrière pour essayer d'apercevoir la fenêtre qui avait attiré votre attention. Les fenêtres du premier étage sont plongées désormais dans l'obscurité. C'est chelou. La lumière que vous aviez vue a disparu. L'endroit semble complètement désert. C'est alors que vous prenez conscience de l'heure. Il est minuit moins 5 et tous les habitants de la maison doivent probablement dormir. Une chouette ulule dans le lointain et un frisson vous parcourt l'échine. Égaré en pleine campagne, sur le seuil d'une vieille maison à moitié en ruine. C'est l'heure de la première décision. Je demande à notre héros ainsi qu'aux auditeurs et aux auditrices d'être attentifs. Alors que vous vous tournez vers la porte d'entrée, vous remarquez une lueur sourde. Qu'est-ce qu'une lueur sourde ? Nous prenons le temps de poser une autre question dans une autre émission. Vous remarquez une lueur sourde provenant du côté gauche du manoir. Une lampe vient d'être allumée. Quelqu'un est donc éveillé et vous poussez un soupir de soulagement. Au milieu de la porte est fixé un marteau sculpté et un cordon de sonnette pend à votre droite. Allez-vous ?
Marteau sculpté ?
Ouais, c'est comme ça. Allez-vous frapper à l'aide du marteau, tirer le cordon de sonnette, ou préférez-vous vous diriger vers la lumière en contournant le manoir ?
Par politesse, je vais commencer par la sonnette.
Tirer le cordon de sonnette. Rendez-vous page 275.
Moi, ce que j'adore, c'est que... Je fais une parenthèse, mais... Il y avait toujours... Le maître du jeu qui essayait de mettre une ambiance quand on faisait des jeux. Il y avait toujours celui qui suivait à moitié et qui était « Putain, qui prend tous les dragibus noirs ?»« Putain, je fais mon ambiance, merde !» J'ai fait exactement ça.
Vous saisissez le cordon de sonnette et vous le tirez. Venant des profondeurs du manoir, vous percevez un léger tintement et la lumière que vous aviez aperçue sur votre gauche disparaît. Bon ben là, il n'y a pas de question, il faut que j'aille en 357.
C'est tout à fini.
Bravo, vous êtes hyper fort.
Fallait pas tirer. Donc apparemment, c'est les méthodes violentes. Ok.
Au bout de quelques instants, la porte s'ouvre lentement. Sur le seuil se tient un homme de haute taille, vêtu d'un habit de couleur noire. Son long visage est empreint d'une solennité glacée. « Oui, » dit-il d'un ton légèrement indigné. Vous souriez nerveusement et vous lui expliquez la situation peu agréable qui est la vôtre. L'homme demeure impassible. « Entrez, le maître vous attend, suivez-moi. » Il vous précède alors jusqu'à un vaste hall et il vous prie de vous asseoir pendant qu'il avertit son maître de votre arrivée. Rendez-vous en 8. Je suis désolé, ce début n'est pas hyper palpitant. Vous vous installez dans un lourd fauteuil sculpté et vous examinez les lieux. La salle dans laquelle vous vous trouvez est bien différente de ce que l'aspect extérieur du manoir vous avait fait imaginer. Elle est décorée avec goût, de riches tapisseries, d'élégants lambris de chêne, meublée d'une robuste table, ainsi que de fauteuils du XVIe siècle. De nombreux portraits sont accrochés au mur. Allez-vous, Aoun, chers auditeurs, attendre l'arrivée de votre hôte, vous intéresser au portrait, ou vous mettre à la recherche d'un téléphone ?
Je vais m'intéresser au portrait.
Trois portraits. Je n'ai pas dit un, je n'ai pas dit deux. Trois portraits attirent votre attention. Allez-vous vous intéresser à une jeune femme d'aspect agréable, portant une tiare, et je ne sais pas ce qu'est une tiare. On me fait signe que c'est un bijou.
Pendentif.
Plutôt joli, oui. Allez-vous vous intéresser à un homme corpulent d'âge moyen et portant des lorgnons, ou à une femme âgée aux cheveux gris et à l'expression sévère ?
J'hésite entre les deux derniers. Je crois que je vais prendre la plus vieille des trois personnes.
C'est bien.
Donc la dame.
La dame âgée, oui. Vous vous approchez d'un portrait sous lequel figure la mention « Duchesse de Brewster, 1777-1845 ». Il représente une femme âgée d'aspect sévère et au regard glacial. Une femme à n'en pas douter d'origine noble. Mais alors que vous le regardez, le portrait semble frémir. Vous clignez des yeux et vous essayez de détourner votre regard, impossible. De légers frémissements agitent le visage peint et bouche bée. Vous voyez des yeux se tourner vers vous. Ajoutez un point à votre total de peur. Voilà. Ses lèvres remuent alors et une voix vous déclare, voix de vieille dame. Étranger, sans le savoir, vous avez pénétré dans un endroit maudit. J'aimerais pouvoir vous prier de vous en éloigner, mais hélas... J'arrête avec cette voix de vieille dame. Vous ne pouvez vous échapper. Le mal et la douleur règnent en ces lieux que vous ne pourrez quitter que si vous les faites disparaître. Mais cela est presque impossible. Je peux cependant vous révéler ceci. Écoutez attentivement. Vous avez un allié dans cette maison. Un allié qui peut vous aider. Il est vêtu d'une toge grise. Et ensemble, vous pouvez libérer le manoir de l'emprise du diable qui l'habite. À ces mots, votre frissonnement cesse. Vous vous frottez les yeux, puis vous regardez de nouveau le portrait. Il a repris sa parfaite immobilité. Je dois changer de chapitre. Un commentaire déjà sur cette apparition.
C'était quand même un choix assez sympa.
Assez sympa, parce que là, de fait, il y a un copain dans le manoir,
ouais,
à retrouver en toge grise.
Tout à fait.
Vous entendez soudain un bruit de pas. Et l'homme vêtu de sombre réapparaît précédant un personnage de haute taille portant une veste d'intérieur pourpre. Permettez-moi de vous présenter Lord Kelnor, comte de Brume. Le comte vous tend la main, son regard vous transperce et ses lèvres esquissent un pâle sourire. À peine avez-vous commencé à lui raconter votre mésaventure qu'il vous interrompt d'un signe de la main. Je vous en prie, je vois que vous avez été pris dans cette épouvantable tempête. Allons nous installer devant un bon feu et voyons comment nous pouvons vous venir en aide. Se tournant vers son majordome, il ajoute « Franklin, dites au cuisinier de préparer quelque chose de chaud pour notre visiteur. » Bientôt la chaleur du feu commence à chasser vos sombres pensées. Franklin est vite de retour, portant un plateau sur lequel sont posés deux verres de cognac. Allez-vous vous détendre en dégustant ce cognac, puis demander à votre hôte la permission d'utiliser le téléphone, ou préférez-vous attendre que votre hôte vous questionne ?
Mais en fait, on sait qu'il n'y a pas de téléphone.
Alors, nous, oui, parce que je l'ai dit, mais vous, votre héros... ne le sait pas parce qu'il l'a pas vu. Il a pas vu qu'il n'y avait pas de ligne de téléphone. Enfin, moi, je le sais, mais pas vous. Enfin, vous le savez maintenant, mais faites abstraction de cette information.
Ok. Je vais attendre qu'il me questionne.
Ok. Alors, il faut aller au chapitre 111, qui est un chiffre cher à mon cœur et au cœur des auditeurs de cette émission. La nervosité qui est la vôtre, je peux le voir, semble embarrasser quelque peu le comte. Allons, allons, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Ce n'est quand même pas un petit accident de voiture qui va vous faire perdre vos nerfs. Buvez donc ce cognac, oubliez vos craintes. Pendant qu'il prononçait ces mots, vous l'avez observé attentivement. Et peut-être votre imagination vous joue-t-elle des tours. Que devez-vous croire, sa bienveillante attention ? Ou cette espèce d'expression malveillante que vous avez cru déceler dans ses yeux, dans son sourire ? Vous frissonnez à nouveau et très certainement avez-vous raison. Vous ajoutez un point à votre total de peur. Peu de temps après, Franklin apparaît et vous annonce que le repas est servi. Vous vous levez et vous allez vers la salle à manger. Aaron.
Est-ce qu'il y a déjà des gens qui commencent ?
Ah oui, alors, je me tourne tout de même vers Rémi.
C'est ça.
Et vers Rémi et Baptiste qui seront vos intermédiaires et entre nous.
Parce que les auditeurs sont très présents et là.
Comme ça, Aaron peut ouvrir ses chips.
Et ah. Eux, Thibaut Chambers, John Marmotte et Nicolas Blau, déjà ils étaient chauds pour prendre le cognac.
Par politesse.
Bien sûr.
Toujours par la politesse,
exactement.
On a quand même été mis en garde par.
Par la dame.
Par la dame.
Par la vieille dame, oui, absolument.
Et alors sinon, une tiare, c'est une couronne papale.
Merci.
Ah ouais. Merci.
Nous rappelle Richard Dalla Rosa.
Ah oui, absolument, qui est président de la Société des écrivains des Ardennes, nous le saluons. Oui,
c'est vrai.
Je demande tout de même, je pose une question. Oui, je jure que c'est vrai, c'est une information tout à fait authentique.
Salut.
Je vais donc retrouver ce qu'on devait faire, c'est-à-dire. Qu'est-ce qu'on doit faire là, je suis complètement paumé là.
Allez au chapitre.
Ah oui, la salle à manger, 309, absolument. N'hésitez pas à intervenir quand il y a des moments de blanc, hein, les gars, si les auditeurs ont quelque chose à raconter. Pendant que je cherche les chapitres, parce que c'est du direct.
Il y a des chips.
Bah pour nous encourager, déjà, Dimitri Gaillot nous dit « Ayez confiance ».
Ayez confiance. Merci, Dimitri.
Chaque personne qu'on croise dans cette aventure.
La salle à manger est somptueuse. Une grande table est dressée entre deux chaises en bois sculpté. Sur cette table sont disposés des couverts en argent. Les murs sont recouverts de luxueuses tapisseries rouges. Et la pièce est éclairée par un étincelant chandelier hérissé de bougies. Vous vous installez à table et Franklin vous présente du vin. Allez-vous choisir un vin blanc ou un vin rouge ?
Vin rouge.
Est-ce que les auditeurs sont d'accord ?
Êtes-vous d'accord, les auditeurs ?
Ils veulent des chips.
Les auditeurs veulent des chips. Le vin est délicieux. Et sans doute s'agit-il là d'un cru exceptionnel. Après avoir dégusté un excellent potage, vous avez le choix entre deux viandes. On s'emmerde un peu dans cette aventure. Non, je vous jure, c'est comme ça, c'est le hasard.
On peut vraiment perdre sur le vin blanc ou pas ? j'ai envie de voir ce qui se passe si on prend vin blanc. Vin blanc, vous êtes mort.
Non, mais ouais, bon, je peux pas vous dire parce que
déteste le vin
blanc. Parce que moi, la dernière fois que j'ai joué, j'ai pris le vin blanc et je peux pas vous dire ce qui se passe.
D'accord.
Après avoir dégusté un excellent potage, vous avez le choix entre deux viandes. Voulez-vous goûter l'agneau ? Ou le canard. Mais vous pouvez aussi déclarer que vous avez déjà dîné et que vous n'avez plus faim.
Oh là là, je me demande le conseil des auditeurs.
Conseil des auditeurs. Agneau, canard ou j'ai plus faim.
Ou vegan.
Ils sont toujours sur le vin.
Ils sont... Ah oui, d'accord. Parce qu'effectivement, il y a 24 secondes, je le précise, il y a 24 secondes de décalage entre ce qui se passe, ce qui nous arrive à nous et ce que vous entendez, vous. C'est la magie de la technique. Nous sommes actuellement sur... vous voulez peut-être un petit coup de fil ? Quelqu'un peut nous appeler. C'est Sylvain Clabeau, le maître de jeu, notre réalisateur, qui me suggère que nous pouvons peut-être prendre un appel. 07 62 49 00 53. Je répète, 07 62 49 00 53. Ah,
des réponses arrivent. Donc, Thibaut Chambers nous... dit de tout manger, donc ce sera pas possible, je pense.
Thibaut, c'est pas possible, tu as tout gourmand.
Corentin Aubert nous propose de canard.
Ouais.
Nicolas Blau, l'agneau. Kevin Jandot, l'agneau. Richard Dalla Rosa, agneau. J'ai l'impression que l'agneau...
Bon, c'est l'agneau. C'est parti. Vous êtes d'accord, Aroun ?
Ouais, c'est
parti. On part sur l'agneau. 196. Faites des bruits de manger, du coup, parce que moi, il faut que je trouve la page à chaque fois.
Alors, je vais manger mes chips en même temps. C'est l'agneau qui croque.
Une radio qui... C'est... Une émission organique.
Et Florian nous dit t'as déjà dîné. Peut-être qu'il connaît des choses qu'on ne sait pas encore sur notre propre.
Une odeur délicieuse a précédé le morceau d'agneau qui vous est présenté sur un plateau d'argent. Sans perdre un instant, vous le dévorez en compagnie du comte qui vous pose 1000 questions vous concernant. Et concernant surtout ce qui a pu vous conduire dans un endroit aussi reculé en plein milieu de la nuit. Puis, à son tour, il vous parle de lui-même et de sa famille. Vous apprenez que le comte est le dernier descendant de la lignée des Brumes. Son domaine s'étend à des kilomètres à la ronde. À une époque, ce domaine était prospère. De nombreux métayers le cultivaient et son revenu était confortable. Jusqu'à ce jour néfaste qui fut témoin de la mort de sa sœur. Survenue dans des circonstances bizarres. Alors qu'elle n'était âgée que de 32 ans, elle fut retrouvée sans vie dans une clairière, le cou portant des marques étranges. La nouvelle de ce drame se répandit vite et dans leur ignorance, les paysans eurent vite fait de propager des histoires de sorcellerie et de magie noire. Bientôt, le manoir devint un lieu maudit. Tout cela était à mettre au compte de la superstition et de la stupidité, bien entendu. Mais pourtant, peu à peu, les fermiers désertèrent le domaine, le morceau d'agneau. Vous l'avez terminé depuis longtemps, Haroun, lorsque le comte achève son récit. Franklin vous propose des fruits, du fromage, du café. Allez vous choisir. Un fruit, du café, du cognac. C'est une émission culinaire. Hein. Du fromage, du café, du cognac. Un fromage et du café. L'ordre est visiblement important. Je répète.
Est-ce qu'on peut répéter,
ouais, ouais, je répète. Attention. Première possibilité. Un fruit, du café, du cognac.
Un fruit, du café, du cognac. Ok.
Du fromage, du café, du cognac.
Ouais, le café, le cognac. Ok.
Un fromage et du café.
Ok.
Je vais laisser réfléchir.
Je peux pas perdre sur
On va poser la question aux auditeurs et on va écouter un morceau tout de suite. Une petite pause musicale avec Apollo Brown, ce producteur de hip-hop du Michigan, qui invite le rappeur Joel Ortiz à prendre des décisions sur un album collaboratif intitulé Mona Lisa. C'est ce qu'on écoutera juste après une courte page publicité qui nous sert à payer des emplois. Réfléchissez bien. Fruits, café, cognac. Fromage, café, cognac. Fromage ou café, l'émission dont vous êtes le héros, gastronomique et fantastique avec Haroun.
Nova Book Box, l'insoutenable légèreté de lire.
Oh boy. Think about this, man. Think about this, bro. A lot to lose, man. Eeny, meeny, miny, mo, now which way I'ma go? Keep moving, this fire blow, a spit of fire flow. Hit the booth or hit the stoop and watch the sirens glow. Carry a gat or a knapsack, my nigga, I don't know. Decisions, decisions, writtens or sit in the kitchen. Rhyme flex or Pyrex, shit, which is your vision? Hit the block or book a studio block. Push all the rock or push yourself to rock a number one spot. Hit him with that bounce and find a nice pocket. Or stash another eight ball in your side pocket. Kill him with the talent or kill him with talents. Metaphors and similes or metal with chimneys. Small hallways or songs all day. Carrier, sword off gauge or get hauled off stage. Hit the plug and get a quote or write some quotes, boy. Have him like that boy dope or be a dope boy. Decisions, decisions. Honestly, I don't know what to do. This rap don't pay the bills, but these krills, man, they move. But if I go to jail, man, I lose. Decisions, decisions. Honestly, I don't know what to do. This rap don't pay the bills, but these krills, man, they move. But if I go to jail, man, I lose. Get it in my neighborhood or fuck up the city. 12-12 skinnies or plug up the midi. Have the fiends feeling like they bass jumping. Cause your bass jumping or get that bass jumping. Decisions, decisions. Trust me, this wasn't too easy. Stay in the trap or try to rap and keep up with Weezy. Try to impress Nas, Jay, and Yeezy. Get your CD up in PC riches or keep getting rich off the PC. Show off in that whip cause your album is sick. Or shit, pull up to that bitch like you Alpo and Rich. Go in and out of town and get that show money. Or go in and out of town and get that low money. Fill that sneaker box, 999 trap money. Or W9s, 1099s, and tax money. Work a single non-stop until you make it crack. Or throw that powder in the pot until you make it crack. Decisions, decisions. Honestly, I don't know what to do. This rap don't pay the bills, but these krills, man, they move. But if I go to jail, man, I lose. Decisions, decisions. Honestly, I don't know what to do. This rap don't pay the bills, but these krills, man, they move. But if I go to jail, man, I lose.
C'est C'est l'appel du 18 juin, la Vabook Box en direct pour une partie interactive de livres dont vous êtes le héros avec l'humoriste Haroun qui est mon invité. Nous sommes en direct sur Facebook, sur la page Facebook de Radio Nova. Nous lisons attentivement vos encouragements et vos conseils pour aider Haroun à se diriger dans les couloirs épouvantables du manoir de l'enfer d'après l'ouvrage de Steve Jackson paru en 1984. Haroun, vous étiez dans une sacrée panade de culinaire.
Ouais.
Il vous fallait choisir, je rappelle, entre le fruit, le café, le cognac, le fromage, le café ou le cognac, ou le fromage et le café.
Alors, il y a eu une suggestion très maligne de
l'auditeur,
qui a dit quoi ?
Alors, c'est Richard Dalla Rosa qui a pensé à ça, et Nicolas Blot, que fromage-café, puisque le cognac est peut-être empoisonné.
Ouais,
la personne insiste trop avec le cognac, et voilà. Il y a peut-être Anguille sous roche.
Il a l'air de vachement
insister. Il y a un stock à vider, quoi.
Ouais, le compte a quand même plutôt l'air envie de vous faire picoler, on ne sait pas trop pourquoi.
Exactement.
Donc vous choisissez.
Restons lucides. Donc
fromage café.
Fromage café.
Le majordome vous présente un plateau de fromage et pose devant vous un pot de café brûlant. Vous poursuivez votre conversation avec le comte. Vous terminez votre repas. Le comte se lève. Votre conversation est fort agréable, dit-il, mais maintenant vous devez être fatigué. Franklin va vous conduire à votre chambre. Vous vous levez à votre tour. Le comte a raison. Vous êtes très fatigué. Minuit est passé depuis longtemps. Vos jambes flageolent. Vous vous accrochez à la table pour ne pas tomber. Vous ne pensiez pas être fatigué à ce point. Mais peut-être avez-vous trop bu. La tête vous tourne. Et la voix de votre hôte semble se perdre dans un bourdonnement qui vous assourdit de plus en plus. Vous vous écroulez sur le sol. Vous perdez connaissance. Le café était empoisonné.
Il y avait une option sans café ou pas? Voilà, c'est pile à ce moment-là que moi je trichais.
Et Richard avait bien.
De quoi?
Nicolas et Richard avaient vu juste.
Vous avez vu quoi? Qu'il fallait pas prendre de café?
Non,
le cognac, c'est ça, bien sûr.
J'ai bu trop de cognac.
Vous ouvrez les yeux, la tête vous tourne. Vous mettez quelques temps avant de réaliser que vous êtes pieds et poings liés. La pièce dans laquelle vous vous trouvez est vide. Pourtant, vous avez déjà un plan. Vous allez sautiller jusqu'à la fenêtre, briser la vitre et frotter vos liens sur le tranchant d'un éclat de verre afin de vous libérer. Avec difficulté, vous vous mettez sur vos pieds et par petits bonds maladroits, vous arrivez jusqu'à la fenêtre. Au dehors, le vent pousse des rafales de pluie contre les vitres. Allez-vous, essayez de les fracasser avec vos mains, mais c'est une entreprise risquée. Ou préférez-vous tenter votre chance? Dans le premier cas, rendez-vous en 360. Si vous préférez tenter votre chance, il n'y a pas d'explication sur cette expression.
Tenter votre chance à quoi?
Je ne sais pas. Ça, c'est la deuxième position.
C'est le monde.
Est-ce que vous cassez des vitres? Ou est-ce que
avec
vous tentez votre chance? Ouais, avec les points, au risque
ou
de vous blesser.
Est-ce qu'on tente sa chance? Je tente ma chance.
Eh ben, rendez-vous.
Total de départ 12. On va tenter sa chance. Il y a sûrement un dé à lancer. J'ai jamais été très balèze pour casser les vitres avec mes poings.
Ouais, ils sont tous sur la chance, là.
Ouais, faut tenter sa chance.
Tout le monde mise sur la chance.
Vous devez lancer le dé. Ah, ouais. Si vous faites entre 1 et 3, vous êtes chanceux. Si vous êtes entre 3 et 6, vous êtes malchanceux. Ah merde, 3, c'est... Qu'est-ce que... Oui, bah c'est bon, c'est ça. Entre 4 et 6, oui, bah ouais, c'est ça. Vous avez été chanceux. Si vous êtes chanceux, vous êtes libéré, sans vous blesser. Rendez-vous. En 317.
Bravo.
Bon, ça s'applaudit, c'est vrai. Ouais, bon.
Il faudrait faire un livre dont vous êtes le héros chez Boko Haram.
Ouais, avec des djihadistes.
Ouais, pour s'échapper de son truc. j'ai des projets de livres dont vous êtes le héros, vous allez voir, on va rigoler.
Apparaître bientôt chez Nova Edition. Vous tournez la poignée, vous poussez la porte, lorsque des bruits de voix vous arrêtent net. Avec prudence, vous jetez un coup d'œil dans l'entrebâillement et vous découvrez une pièce confortable. L'un des murs est recouvert d'un très grand miroir dans lequel l'ensemble de la pièce se réfléchit. Sur le mur qui lui fait face, une fresque représente une scène champêtre. La pièce est vide, à l'exception d'une table entourée de chaises. Pourtant, vous entendez toujours des bruits de voix, ce qui est tout à fait incompréhensible. Vous êtes sur le point malgré tout d'entrer dans la pièce, lorsque soudain vous entendez « Qui est à la porte ?» Vous préférez déguerpir. Allez-vous maintenant vous rendre à la porte opposée ou reprendre votre marche le long du corridor en prenant à droite?
Qu'est-ce que disent les internautes? Ils n'ont pas encore l'info. Ouais, je vous laisse réfléchir à cette question.
La porte opposée, ouais,
porte opposée.
La porte ou le corridor, parce qu'il y a quand même des voix qu'on entend qui sortent d'un tableau.
Ouais, mais dans cette salle-là.
Ouais.
Et la porte opposée, elle est opposée à cette salle-là.
Ouais, c'est, on va dire que c'est comme la pièce d'en face.
Non, moi je pense qu'il faut prendre le corridor, s'éloigner au maximum, mais on va voir ce que vont dire les intendants. Avec la musique des contes de la crypte.
Alors, bien joué,
deux pour la porte
bravo.
Opposée et deux pour le corridor.
Nous allons suivre votre volonté. Deux nouvelles portes se font face. Dans un corridor qui se termine en cul-de-sac. Porte de gauche ou porte de droite?
Allez, droite.
Fidèle à vos convictions politiques.
Exactement.
Louis nous dit corridor et à droite t'as la patte doigt. Il aurait le trajet apparemment.
Effectivement, je trouve ça assez hallucinant parce que je suis sur une page où il y a une patte doigt, en effet. Il est hyper fort ce Louis. En
bravo,
fait, il
Louis,
est vraiment il est en train de faire la partie en même temps que nous.
Ok. Louis
mais lui,
reste connecté.
Louis ne va pas te coucher. N'honore pas ta femme et ne borde pas tes enfants. Reste avec nous, on est dans la merde. La porte s'ouvre. Vous pénétrez dans une cuisine.
Ah.
Personne ne se trouve dans cette pièce qui est d'une parfaite propreté. Des couteaux, des récipients, des casseroles sont suspendus au mur. Une cuisinière, un réfrigérateur vous entoure. Il y a aussi un évier, une fenêtre, une grande table carrée. Vous apercevez deux portes. L'une donne sur l'extérieur de la maison, l'autre semble être la porte d'un garde-manger. Un lourd trousseau de clés est accroché au-dessus de la cuisinière. Allez-vous ? Vous dirigez vers la porte qui donne sur l'extérieur, vous rendre au garde-manger, vous emparer du trousseau de clés.
Bah, c'est l'aventure, hein. On prend les clés. Hein.
On prend les clés.
On va quand même pas fuir, alors qu'on est menacé d'être tué.
Vous vous saisissez du trousseau de clés et... Ah, vous poussez un hurlement de douleur en le lâchant car les clés ont été chauffées à blanc. Et vous voilà gravement brûlé. Vous perdez 3 points d'endurance et 2 points d'habileté. Car vous avez pris le trousseau avec la main qui tient l'arme lorsque vous combattez. Quand vous aurez à combattre un peu plus tard. Mais vous pouvez tenter votre chance. Lancez 2 dés. Toujours entre 1 et 3, c'est la chance. Entre 4 et 6, c'est la malchance.
Ah là là.
La malchance. Vous avez bien peur que le hurlement que vous avez... Ah ouais, okay. Vous avez attiré l'attention de quelqu'un. Dites quelque chose.
J'espère que c'est quelqu'un qui a une toge grise.
Oui, merci.
Louis stipule que sa femme l'aide à répondre.
Merci. Merci à Louis et sa femme.
À toute la famille de Louis et toute sa descendance et ses aïeux.
Car tout le monde bosse sur ce jeu. Vos craintes sont confirmées, car la porte s'ouvre à la volée. Le vacarme que vous avez fait a attiré l'attention de bizarres amis du comte de Brume. 4 personnages vêtus de toches blanches, le visage caché sous des têtes de bouc, surgissent dans la pièce. Ils sont armés de couteaux et de longs bâtons de bois et il serait stupide de votre part de vouloir leur résister. Ils vous saisissent par les épaules et vous traînent dans un escalier qui descend jusqu'à une salle souterraine. Dans cette salle se trouvent 4 cellules, 3 sont déjà occupées mais la 4e est vide et il ne vous est pas difficile de deviner pour qui elle est réservée. Vous voilà livré au bon plaisir du comte. Et votre aventure s'est terminée ici.
Non.
C'est chaud.
Ok.
Bon bah alors Haroun, merci d'être venu. Vous êtes mort. Heureusement vous avez des vies supplémentaires. On va faire
c'est
une autre
nul.
Pause musicale. Ouais, vous êtes dégoûté.
C'est nul ce jeu.
Vous avez des. On va prendre le temps de réfléchir où est-ce qu'on aurait dû changer d'idée pendant la pause musicale. On écoute Papa Brando et Isus Erect. Tuctivos, qui est l'un des plus grands groupes panaméens des années 60, avec son morceau Décide-toi mon amour, que nous dédions à Louis et à sa femme. C'est l'appel du 18 juin à la Nova Book Box en direct pour une partie interactive de livres dont vous êtes le héros avec l'humoriste Haroun. Nous sommes en direct sur Facebook, sur la page Facebook de Radio Nova. Nous lisons vos commentaires et nous recevons vos appels également. Je suis en ligne, si tout va bien, avec l'écrivain des Ardennes, Richard Dallarosa, qui nous appelle de Charleville-Mézières. Bonsoir, Richard.
Allô, oui, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, déjà, je vous félicite pour votre prénom.
Ben oui, merci.
Est-ce que vous avez des conseils à donner à Haroun qui est mort,
s'il vous plaît,
qui est mort il y a quelques minutes dans une geôle appartenant à un manoir visiblement dégénéré, un manoir d'une personne, bref, on a compris, un comte de Brume. Il a usé une de ses vies, donc nous allons reculer d'une étape, c'est-à-dire au lieu de se saisir du trousseau de clés qu'il a brûlé, il est de nouveau dans la cuisine, il a le choix entre se rendre au garde-manger ou sortir dehors, en dehors du manoir. Qu'est-ce que vous lui conseillez, Richard?
Peut-être aller dans le garde-manger, finalement. Hein.
Pas dehors.
Parce que si je me demande si dehors, il n'y a pas d'autre chose qui l'attend de pire, peut-être. Mais
c'est l'heure, quand même, où on casse la croûte.
Est-ce que vous avez déjà joué à ce jeu en particulier, Richard?
Ah, certainement, parce que j'en ai lu plein quand j'étais adolescent, quand j'étais au collège, et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire en plus, principalement.
C'est beau.
Donc c'est le genre de bouquin qu'il faut mettre entre les mains des élèves, ça c'est sûr. Il faut vraiment faire beaucoup de publicité pour ces publications, parce que c'est un honneur à l'imaginaire, l'imagination, c'est tout simplement génial, quoi.
Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage tout à fait émouvant. Je suppose qu'Haroun va suivre votre conseil.
Allez, on suit le conseil de Richard.
On y va, c'est parti.
Garde-manger.
Vous saisissez la poignée de porte que vous ouvrez en grand. Mais la vision qui s'offre à vous vous fait reculer d'horreur. À l'intérieur du placard dans le garde-manger, immobile, se tient une forme hideuse, couverte de guenilles. Son visage et ses mains sont à moitié pourris, et la pestilence qui en émane vous fait chanceler. Ses yeux s'ouvrent et sa gorge émet un abominable gargouillement. Est-ce que vous pourriez essayer de faire un abominable gargouillement ? Tandis que sa langue répugnante s'agite dans votre direction. La créature s'avance alors vers vous. Vous ajoutez 2 points à votre total de peur. Et si vous êtes toujours en vie... Vous êtes toujours en vie. Vous allez devoir combattre une goule.
Oh non.
Vous pouvez saisir un des couteaux accrochés au mur du garde-manger et l'utiliser comme une arme. Dans ce cas, ajoutez 3 points à votre total d'habileté. La goule vous inflige 2 blessures. Vous vous rendez au 186. Ah non, en fait, il y a un calcul à faire, parce que vous devez quand même l'affronter, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Donc en fait, la goule, elle a 8 points d'habileté et,
moi, j'en ai
et 7 points d'endurance. Donc est-ce que vous êtes plus balèze que la goule?
Oui.
Eh bien, donc vous avez gagné. Donc on peut féliciter Haroun qui a gagné contre la goule.
Merci Richard, merci, hein. Merci de me faire prendre des risques.
Non, voilà. Et déjà, est-ce que vous pourriez nous dire, c'est la première fois que je me tape je bats contre une goule?
Bah ouais, c'est ça fait un peu le même effet que quand t'es à Porte de Clignancourt et que tu rentres tard le soir, qu'il y a quelqu'un qui te demande un bédo. Et c'est un peu le même effet, ouais.
La goule s'écroule sur le sol, mais dans sa chute entraîne une batterie de casseroles qui déclenche un vacarme assourdissant.
Et c'est fini. Et donc là, il y en a 4 qui reviennent.
attendez.
Mais là, je suis chaud.
Ah non, mais c'est l'enfer. C'est la même fin que tout à l'heure. Vos craintes sont confirmées, le compte arrive, et vous êtes mort à nouveau.
C'est pas possible. Et j'ai combien de vie?
Je crois qu'il vous en reste encore 2. Nous allons faire une courte pause musicale avec Sylvie Vartan. Son morceau s'intitule Il faut choisir. C'est une adaptation d'Up to You de Rick Nelson en 1963. C'est un morceau très très court, mais il faut qu'on vous êtes
il
mort.
Il faut choisir. Il faut choisir. Il faut choisir entre le,
il reste aller dehors. Donc on écoute Sylvie Vartan et on vous êtes mort
ça
deux fois en 5 minutes
dans cette cuisine.
C'est quand même l'enfer. Sylvie.
Il faut choisir parce qu'au fond ça ne peut plus durer. Tu dois partir. Ou bien tout peut recommencer. Pourquoi mentir? vaut bien mieux que tout soit plus clair. Crois-moi,
crois-moi.
Parfois,
parfois,
ça fait mal, mais c'est nécessaire. Il faut,
savoir,
savoir, se dire sans détour ce qu'on a sur le cœur qui détruit lentement la. J'avais à te dire, maintenant je te l'ai dit, la réponse que je désire, je la veux aujourd'hui.
Il faut
choisir.
Choisir,
c'est à toi de décider,
s'il faut
détruire le présent et tout le passé.
Pourquoi
mentir? Tu peux délivrer ton cœur. Maintenant tu le sais, voici l'heure de choisir.
Nous sommes en train, depuis le début de cette émission, depuis le début de cette heure, de faire une partie de livre dont vous êtes le héros, Le Manoir de l'Enfer de Steve Jackson, en compagnie d'Haroun, qui est déjà mort deux fois, et bien dans les 10 dernières minutes, Haroun.
Oui.
Malgré les savants conseils de nos auditeurs.
Parce qu'on aurait dû se méfier de la gastronomie, en fait, et dans la cuisine, apparemment, ça se passe
très mal. Julie ajoute que depuis le début, il dit qu'il faut sortir de cette cuisine, sortir bordel avec un parapluie si le choix s'offre.
Ok, alors donc...
Avec un
parapluie,
ce qui pleut, choix s'offre.
Du coup. D'accord. Ambiance de pluie. Nous allons sortir parce que c'est la seule...
On sort de cette cuisine.
Il vous reste une vie, me semble-t-il. Hein. C'est ça. Hein,
ouais, c'est ça.
Une vie, parce que vous avez gagné 3 vies au départ, vous en avez usé 2. Donc c'est là, on rentre à la fois dans les derniers moments de cette émission et puis il n'y a plus de... C'est le chemin sans retour. Hein.
Ouais, si jamais je meurs avant, on peut savoir quand même...
Comment on fait pour sortir?
Ouais.
Ah ben ça, on verra avec les, on verra avec les auditeurs. Toutefois, si vous sortez de cette cuisine pour vous diriger vers l'extérieur.
Non, mais pas de la porte extérieure.
Ah, vous vouliez aller à la pièce d'avant?
Ouais.
Vous voulez pas aller à l'extérieur?
Ah.
Parce qu'il y avait trois, il y avait les gardes-manger, il y avait.
D'accord, ok. Donc
un autre truc, ouais, le trousseau de clé, et puis vous dirigez vers l'extérieur.
Mais la porte extérieure, ok. Une porte qui donne vers l'extérieur, très bien. Ok, allons-y.
Alors quand on. Au bout du chemin, vous vous dirigez vers une autre porte qui se trouve au chapitre 126. Je vais profiter de chercher ce chapitre pour qu'on fasse le point sur votre morale, Haroun. À l'heure actuelle, comment vous vous sentez ?
Je me sens assez dépité, mais je pense que c'est dans ces moments-là, en fait, dans les scénarios, que le héros trouve les ressources au plus profond de lui-même. En tout cas, dans la structure du scénario, c'est quand on croit que tout est perdu qu'en fait, il y a une lueur d'espoir. Donc, on va s'en sortir. Je dis aux auditeurs, on va s'en sortir, les gars et les filles.
Vous entendez une voix. Une voix qui dit « Je n'en reviens pas ». Mes prières auraient-elles été entendues ? Puis-je me joindre à vous ? Permettez-moi de vous accompagner. Vous répondez à cette personne que vous acceptez bien volontiers son aide pour vous enfuir du manoir. Mais vous l'interrogez sur la raison de sa présence. Dans ce lieu, il vous entraîne, lui, au lieu de répondre, dans un sinistre souterrain. Avez-vous déjà entendu parler des sacrifices ? je suis la prochaine victime. J'étais une créature du maître, mais je ne peux plus supporter de vivre dans ce monde infernal. Il n'est pas permis de quitter le manoir. Aussi ai-je été condamné à mort, condamné à être sacrifié. Mais ensemble, cher Harun, nous pouvons anéantir Kelnor, car je sais ce qu'il faut faire pour y parvenir. Kelnor ne peut être détruit qu'avec le Kriss, le poignard malais, qui est caché quelque part dans le manoir. Nous devons l'attirer dans une pièce rouge. Il faut débarrasser le monde de ce monstre et de sa secte démoniaque. Vous seriez stupide de refuser cette aide et vous ajoutez un point à votre total de chance. Pour cette rencontre, un bruit venant de l'extérieur interrompt votre conversation. Rendez-vous en 87. Beaucoup d'informations dans
là,
cette rencontre.
Là, mais là, c'est bien. Là, on est content d'avancer.
Vous avez raison, c'était le moment du rebond que vous...
Le Kriss, je pense que les gens qui font les livres dont vous êtes le héros sont très calés sur les anciens objets quand même. Kriss,
poignard malais.
Poignard
malais, ouais, c'est ça.
Les tiards, les... Voilà.
La calice. Une porte s'ouvre à la volée. Deux hommes revêtus de longues robes blanches surgissent dans la pièce. Vous supposez que ce sont des hommes car leur visage est caché derrière des masques qui sont têtes de bouc. Ils sont armés de couteaux et se précipitent pour vous attaquer. L'un se jette sur vous, l'autre sur votre compagnon. C'est vous qui combattez en premier.
Ah.
Vous êtes face, attention, tenez-vous bien, à un serviteur du diable. Ce n'est pas Patrick Balkany. Il a 8 points d'habileté, 7 points d'endurance. Est-ce qu'il est plus fort ou moins fort que vous ?
Moins fort, mais moins fort, évidemment.
Très bien.
J'ai fait du judo.
Vous vous rendez donc en 178. Description physique du serviteur du diable, vite fait, comme ça.
Bah en fait, les têtes de boue, ça me fait penser aux ceux qui jouent au jeu dans les Fort Boyard. Il y en avait qui jouent au jeu d'adresse là, avec des têtes de bouc.
Ah oui,
comme par hasard. Alors ?
Je vous en prie. J'ai dit combien ? 178 ?
Je me souviens plus.
Je sais pas. En tout cas, Richard dit que l'erreur est humaine. Et il ajoute l'erreur ne peut-elle être qu'humaine ? Vous avez 4 heures.
Sans perdre un instant, vous vous précipitez pour aider votre compagnon, puisque lui aussi est attaqué. Trop tard ! Le serviteur du diable vient de lui plonger son poignard en plein cœur.
Oh là 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 là.
Oh ! De rage, vous assénez un coup violent sur la nuque du personnage masqué qui s'écroule sur le sol. Mais vous n'avez plus d'alliés et vous devez continuer votre chemin seul.
Il y a Totor qui dit t'aurais dû manger du canard.
Rappelons-nous du début de l'émission.
C'est sûr, c'était le canard. Vous revenez sur vos pas dans le couloir jusqu'au pied de l'escalier. Le couloir se poursuit et vous décidez de le suivre. Un peu plus loin, volée de marche. Mais la lumière est si faible que vous ne voyez ces marches qu'à la dernière minute et vous dégringolez cul par-dessus tête. Vous vous faites mal et vous perdez un point d'endurance.
Ça, c'est j'aurais fait presque pareil.
Vous vous relevez en grimaçant de douleur. Vous regardez autour de vous. Vous vous trouvez dans un long et sombre tunnel, au bout duquel vous apercevez une lueur. Vous avancez avec précaution. Vous ralentissez lorsque des bruits de voix commencent à vous parvenir. Une espèce de chant long et monotone.
C'est la secte.
Bientôt, vous pouvez voir ce qui se passe. Une quarantaine de personnes sont assemblées autour d'un grand feu. Un peu à l'écart du feu est dressé un autel sur lequel une jeune femme est étendue, pieds et mains liés. Il ne s'agit pas d'Isabelle Balkany. Il vous est impossible de voir les visages des personnes présentes, car elles ont toute la tête recouverte d'une tête de bouc. Devant l'autel et en son milieu se tient un personnage de grande taille, vêtu d'une sorte de robe de cérémonie. Son masque est teint en mauve. Il tient à la main une dague effilée et il se prépare à sacrifier sa jeune victime. Allez-vous assister à la cérémonie Pépouze, essayer de chercher le moyen de vous enfuir ou porter secours à la jeune femme, tel le guerriero chevaleresque que vous êtes?
Ça, je pense que c'est un des derniers choix qu'on va faire.
Ouais, c'est sans doute la fin de l'émission.
Donc je demande quand même aux auditeurs ce qu'ils en pensent.
Alors nous avons 24 secondes. On attend d'ici attendre que les auditeurs.
Donc, est-ce qu'il faut sauver
la jeune femme qui est en train d'être sacrifiée par une secte souterraine.
Le gars en pourpre là, il doit avoir le couteau.
Le Kriss, le poignard de Malaisie.
Voilà, exactement.
ou vous alors, tirez ou regardez la cérémonie, ce qui est un choix étrange.
Ouais, complètement.
Il y en a beaucoup qui sont pour regarder avec des chips.
Ah, regarder la cérémonie
avec des chips.
Dis donc, c'est sympa ce qu'ils font, hein. Alors beaucoup, c'est ça un Chris ?
Beaucoup de... c'est non ça une secte, mais c'est vraiment dingue. Ah oui, oui, oui. Bon, beaucoup de lâches hein, parmi les auditeurs de la Dogbox.
Et tu sors ton téléphone et tu files.
Totor, il veut porter secours, Totor.
Totor porte secours.
Bah, faut aller dans l'aventure de toute façon un peu.
On va dans l'aventure ?
Ouais, bah oui, faut rentrer dans le tas, sinon c'est pas marrant.
Ok. Donc vous allez porter secours à la princesse ?
Bah oui.
Ok.
On y va, on a déjà battu une goule.
Et un serviteur du diable.
Et un serviteur du diable. Allons.
Vous bondissez au milieu de l'assistance en poussant un cri effrayant. Ya ! La jeune femme tourne des yeux pleins d'espoir vers vous. Votre audacieuse tentative est tout à fait louable, mais totalement stupide. Comment espérez-vous pouvoir venir à bout de 40 adversaires ? Vous êtes bientôt entouré, réduit à l'impuissance, et le couteau du prêtre s'enfonce dans votre gorge. Vous êtes mort en héros.
Et moi, je suis une belle mort.
Harold, je suis un peu emmerdé parce que là, vous n'avez plus de vie.
Non, mais c'est fini.
C'est donc la fin de la partie. C'est fini. On va écouter un dernier morceau. On va écouter un dernier morceau avant de se dire au revoir. On peut écouter par exemple.
Oui, on peut pas savoir comment ça aurait terminé.
Alors on va justement poser la question aux auditeurs. Et s'il y en a qui connaissent le manoir de l'enfer, quel était le chemin, à quel moment on a merdé? Je vous pose la question, chers auditeurs, chères auditrices. Je vous redonne le numéro de téléphone si
parce
vous voulez nous le dire.
Louis qui était chaud là, qui avait.
Louis et sa compagne ont peut-être l'info. Ils ont le bouquin d'ailleurs, c'est clair. Donc 07 62 49 00 53. Si Louis peut nous donner la réponse.
Comme Louis là.
À quel moment on s'est trompé? Et pendant ce temps-là, nous allons écouter par exemple les Vanishing Twins.
Surtout,
Choose Your Own Adventure. Il faut savoir que Choose Your Own Adventure est aussi le titre d'une série américaine à succès de livre-jeu pour enfants, signé Edward Packard. m'excuse au regret d'avoir annoncé à tous les admirateurs de l'humoriste Haroun, qui était mon invité de ce soir, qu'il est mort. Qu'il est mort trois fois, à trois reprises, mais qu'il est mort en héros.
La troisième fois,
il est mort en héros en essayant de sauver une jeune femme des griffes acérées d'une secte souterraine qui vit sous le manoir de l'enfer, tenue prisonnière par des gens qui portent des masques de bouc. De bookbox peut-être, nous le saurons peut-être lors d'une future partie. Alors nous avons lancé tout de même un appel auprès des auditeurs et des auditrices pour essayer de savoir où c'est qu'on a merdé, c'est-à-dire à quel moment pendant tout ce parcours, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, quel est le chemin. Le livre que nous avons parcouru ce soir date de 1984, il a été joué des centaines de milliers de fois, Le Manoir de l'Enfer. Que disent les auditeurs, mon cher Baptiste?
Bah, il aurait fait peut-être fallu prendre l'autre côté du corridor.
Oui. Ce qui merci.
Voilà. C'était soit à gauche, soit à droite.
Merci sinon, beaucoup.
Prendre le canard, le cognac aussi, enfin tous les.
Non, mais est-ce que
des gens qui sont allés jusqu'au bout? Oui, c'est voilà. Ça. Est-ce que quelqu'un est déjà allé jusqu'au bout?
Non, parce que
Louis et sa compagne, qui connaissent le jeu, est-ce qu'ils nous ont
dit
appelé?
Pas de doigts, tout ça. Ils étaient quand même.
Non. Personne n'a.
Pas de nouvelles de Louis qui est allé se coucher.
Oh là là.
Bon, alors j'en profite, autant que peut-être que d'autres personnes se manifestent. Haroun, dans votre activité d'humoriste, vous travaillez justement beaucoup sur l'interactivité avec votre public. Ouais. Est-ce que ce serait possible un spectacle comique interactif? Vous avez plus ou moins déjà essayé, à vrai dire.
En fait, j'ai voulu le faire, mais parce que j'avais fait un live sur le spectacle Élection, mais il y avait un délai qui faisait que je pouvais pas improviser sur le fait que les gens allaient me faire des suggestions de. Parce qu'à un moment, dans ce spectacle, je demande au public qu'est-ce qu'ils feraient s'ils étaient présidents. Mmh. Et j'aurais voulu qu'ils interviennent, enfin qu'ils interagissent avec moi. Mais il y a aussi une idée qui pourrait être sympa aussi, c'est de quand on a fait plusieurs spectacles, de demander au public en direct
quel sketch
ils ont envie d'avoir.
Ah ouais.
Et ça serait possible. Ça demande techniquement, ça demande un gros boulot parce que ça veut dire que l'humoriste devrait apprendre peut-être 4 heures, 5 heures de spectacle.
Vous voulez qu'on essaye là maintenant?
De faire un sketch là maintenant.
Bah, c'est-à-dire que là, on demande aux auditeurs qui sont en train de nous écouter quel sketch, quelle histoire à vous ils aimeraient entendre là, et on voit ce qui sort en premier.
Ouais, mais là, je les connais pas mes sketchs.
Enfin, je veux pas vous mettre dans l'embarras, mais peut-être une histoire, peut-être. Je sais pas.
Mais
on essaye.
Ouais, on essaye.
Okay.
Mais je pourrais que raconter.
C'est une histoire que les gens que vous avez déjà raconté sur scène et que les gens auraient envie de réentendre.
D'accord, ok.
On fait le test. Ouais. Quelle est l'histoire que Haroun a déjà racontée sur scène, chers auditeurs, que vous aimeriez réentendre?
Le sketch dont vous êtes le héros.
Le spectacle dont vous êtes le héros.
Essayer ça.
Pendant ce temps-là, je me tourne vers Sullivan Clabot qui peut peut-être mettre en fond très légèrement ce morceau de Laurie Anderson qui s'intitule Oh Superman, qui figurait sur la bande originale de cet épisode de Black Mirror, Bandersnatch, qui était un épisode dont vous êtes le héros, sur le principe des livres dont vous êtes le héros. Morceau de 1981.
Mais je l'aime pas regarder, moi, cet épisode de Black
Mirror.
13
fins possibles. Et cette chanson-là, c'était la musique de la fin la plus triste.
D'accord.
L'alternative la plus désespérante.
Et il est vraiment bien l'épisode?
Moi, j'ai trouvé techniquement, c'était quand même assez passionnant à observer. Ça a déçu beaucoup de gens, mais moi j'étais quand même excité devant mon écran.
J'ai vraiment eu la flemme. C'est ça aussi, je me suis remis en question sur cette idée-là, c'est que j'aime bien vraiment prendre tout ce qu'il y a à prendre, mais le fait de redevoir choisir.
Pas bosser, quoi.
Non, parce que quand je regarde un truc, j'ai envie de me déconnecter directement.
Je me retourne vers Rémi et Baptiste. Est-ce qu'on a des fans de Haroun qui aimeraient l'entendre improviser un sketch?
Laurent nous cite « Si j'étais président ».
Si j'étais président, mais je me suis un peu.
C'est une histoire à vous, ça?
Mais non, en fait, si j'étais président... Ah oui, si. Qu'est-ce que j'ai dit?
L'auteur propose les happiness managers.
Ouais, les happiness managers. Ah ouais, alors si j'étais président, je crois qu'à un moment je parle de moi. Je pourrais pas être président. Qu'est-ce que j'ai
Est-ce
dit
que c'est plus simple avec
non,
happiness manager
je confonds plein de choses parce qu'en fait il y avait l'histoire de. C'est sûr que j'aurais envie de jouer avec le bouton de la bombe atomique en fait. Et donc je pourrais pas être président parce que je crois qu'à un moment j'ai le bouton de la bombe atomique. Et je le confonds avec le bouton de l'appel à ma secrétaire ou un truc comme ça. Et donc je fais genre Martine. Et en fait, j'ai appuyé sur le bouton. Et je dis ah. Et je lui dis, vous sentez pas des picotements? Et tout va bien. Et voilà, c'est un truc comme ça, un délire comme ça. Et après, les happiness managers, c'était sur le spectacle internet où je parle des happiness managers, des gens qui managent le bonheur. Je sais plus ce que j'ai dit.
C'est là qu'on voit qu'en fait, vous n'êtes pas l'auteur de ce spectacle.
Non, mais je sais, en fait. Sinon,
comment ?
C'est peut-être plus récent, je sais plus, mais le sketch sur la gravitation quantique à bout.
Je me souviens de rien du tout. C'est impressionnant. Non, non, mais en fait, vraiment, j'oublie trop vite. En fait, si je faisais ça, il faudrait vraiment que je fasse un effort d'apprentissage des spectacles précédents parce que. Parce que, en tout cas, ouais, les happiness managers. Ah oui, les happiness managers, c'est que. Ils gèrent le bonheur et je dis qu'en gros, il y a les dealers qui font très bien ça aussi. Et surtout qu'il y a des gens qui ont fait des rire thérapie là, des
art thérapie.
Non, ouais, des trucs de thérapie du rire où ils mettent les gens dans une salle, il suffit juste de rigoler. Et en fait, ça, c'est, normalement, c'est mon métier, mais sans moi en fait.
Ah
et,
ouais.
Et ils ont ubérisé mon métier, les happiness managers. Bon, voilà, c'est... Et, évidemment, raconter comme ça, c'est vraiment pourri. Donc, le concept est vraiment à retravailler quand même.
L'histoire retiendra que vous êtes mort en héros en essayant de sauver une jeune femme d'une secte sanguinaire.
Et on n'a pas connu la fin.
Merci beaucoup, Haroun, d'avoir participé à cette aventure.
Merci à tous les auditeurs, surtout.
Merci à tous les auditeurs des quatre coins de France de nous avoir aidés dans cette quête. Merci à Sullivan Clabot d'avoir réalisé cette émission. Merci à Baptiste Artru et Rémi Benchebra d'avoir... superviser l'assistance digitale. Merci à la propriétaire de cet exemplaire vintage du Manoir de l'Enfer, Judith Margolin. On se retrouve dès demain 21h pour de nouvelles aventures littéraires avec une lecture du très beau roman de Pierrick Bailly, L'homme dans les bois. Bonne nuit
et à demain.
Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.